5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h12, bon début de journée en ce jeudi. On va à présent lever les yeux au ciel puisque cette nuit, une fusée de la société SpaceX a décollé de Cap Canaveral en Floride. À son bord, 4 touristes et pas d'astronautes professionnels. On en parle, Julien, avec notre invité, un astrophysicien spécialiste de l'exploration spatiale.
Bonjour François Forget.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous avez suivi, j'imagine, attentivement cette nuit le lancement de la mission Inspiration 4 de SpaceX. Décollage réussi vers 2h du matin, heure française. Ça y est, l'équipage est arrivé à son altitude de croisière, à près de 600 km d'altitude.
Oui, ça c'est l'altitude maximale. Hein. C'est une orbite qui est un peu elliptique. Et donc effectivement, ils vont très haut. C'est un peu innovant. Ça faisait depuis les années 60 que 70 qu'aucun Américain, aucune mission américaine n'avait été aussi loin de la Terre, entre guillemets.
Alors Omblin le disait, à bord de cette capsule, il y a 4 touristes en orbite, capsule entièrement automatisée, sans aucun astronaute professionnel. Le tout pendant 3 jours, c'est du jamais vu, on peut le dire, c'est historique.
Oui, on peut le dire. Il se passe beaucoup de choses historiques dans le spatial, ce qui est quand même intéressant. Hein. Rappelez-vous, finalement, ça fait presque 40 ans qu'on avait des vols de navettes spatiales, des vols de Soyouz. Là, depuis 20 ans, la Station Spatiale Internationale. Et tout d'un coup, depuis quelques mois maintenant, il se passe plein de choses avec ce Crew Dragon, cette nouvelle capsule. Et puis, ça va être suivi de plein d'autres choses, et notamment donc cette mission avec des touristes qui est un peu sans précédent. Ouais.
C'est vraiment le lancement du tourisme spatial ?
Alors, en toute rigueur, il y avait déjà eu des vrais touristes spatiaux qui avaient volé sur Soyouz il y a quelques années avec la société Space Adventure qui vendait des places sur Soyouz. Donc, il y en a eu quelques-uns. Le premier, c'était Denis Titoff. Vous avez un Québécois francophone qui s'appelait Guy Laliberté, rappelez-vous, qui avait fait plein de photos, qui avait été sur la Station Spatiale Internationale. Mais là, c'est encore autre chose, puisque c'est vraiment une mission dans laquelle aucune agence spatiale est directement impliquée, on va dire. Et donc, c'est vraiment SpaceX, compagnie privée, qui a vendu les sièges de la capsule et vendu ce projet-là.
Le fait d'avoir choisi 4 Américains lambda, entre guillemets, parce qu'on précise qu'il y a tout de même un milliardaire à bord, ça a un beau coup de com' tout de même de la part d'Elon Musk, le patron de SpaceX.
Oui, on peut dire ça, mais c'est pas le coup de com' n'est pas que pour SpaceX, au sens où c'est vraiment, ça fait partie du plan, entre guillemets, y compris de la NASA, qui a commandé, co-développé la capsule Crew Dragon et qui a souhaité depuis le début que ça devienne quelque chose qui soit commercialisable pour des milliardaires, évidemment. Mais le milliardaire en question a payé entièrement les places sur la capsule. Donc c'est un coût commercial aussi, on va dire. Et ça sera suivi par bien d'autres exemples, des vols y compris vers la Station Spatiale Internationale, donc vraiment le niveau au-dessus, entre guillemets, qui est des vols un petit peu plus longs, etc.
Il y a tout de même une sacrée prise de risque, envoyer 4 novices dans l'espace sans aucun professionnel pour les diriger, c'est osé, pour ne pas dire inconscient, à ce stade du développement de cette capsule, dont je rappelle que ce n'est que le 3e vol commercial.
Oui, alors c'est le 4e vol, parce qu'il y avait un vol de test avec des astronautes suivi par 2 vols, notamment avec Thomas Pesquet, qui est un professionnel. Alors, on peut quand même moi dire une chose, c'est qu'il ne faut pas croire que ce sont des touristes qui sont arrivés 3 jours avant, qui sont montés et puis qui sont partis tranquillement. En réalité, ils ont quand même, d'abord, ce sont la plupart, vous avez là-dedans des vrais pilotes qui auraient pu être sélectionnés pour être astronautes et qui ont suivi un entraînement quand même, qui ont suivi le même entraînement en gros pour ce qui concerne le Crew Dragon que Thomas Pesquet, pour faire simple. Donc ça fait plus de 6 mois qu'ils sont là-bas chez SpaceX et ils sont vraiment entraînés en simulateur à peu près comme des astronautes. Bon, cela dit, ils n'ont pas été sélectionnés avec autant de rigueur, ils n'ont pas fait une formation aussi longue qu'un vrai astronaute. Une fois que j'ai dit cela, est-ce qu'il y a un risque ? Ah bah oui, parce que les vols spatiaux, c'est quand même dangereux. Il suffit de voir un lancement de fusée pour se dire quand même que c'est quelque chose d'impressionnant.
Et puis on se souvient d'Apollo 13, par exemple.
Oui, oui. Et puis depuis, surtout, vous avez eu des notamment pour ce qui concerne la navette spatiale, vous avez eu deux échecs avec à chaque fois 7 morts. Et si vous aviez, et c'est possible, l'équivalent avec ce vol, effectivement, il y aurait un risque un changement complet de la vision qu'on aurait de la chose. Si on se souvient bien, rappelez-vous, dans les années 80, la NASA souhaitait justement populariser l'idée que l'accès à l'espace n'était pas que pour les professionnels et que c'était facile. Ils ont envoyé des sénateurs, l'actuel dirigeant de la NASA est un sénateur qui s'est juste entraîné un peu, qui n'est pas suivi à la navette spatiale. Et surtout, le Challenger en 1986 avait emporté une institutrice qui, pareil, était très peu entraînée, un peu pour montrer qu'on pouvait maintenant aller dans l'espace. L'espace était pour tout le monde. Et elle était morte dans l'accident de Challenger en 86. Donc, si l'équivalent arrivait, finalement, ce serait ça. Oui, ce serait une catastrophe. Mais on n'est pas là. Et donc, SpaceX a suffisamment confiance pour se dire que, bah oui, c'est fait partie de son business. Et il y a peu de chances quand même qu'il y ait un accident.
Oui, heureusement. Dernière question, François Forget. Est-ce que vous voyez ce mouvement de tourisme spatial comme une opportunité d'accélérer la conquête spatiale ou au contraire comme un frein à des missions plus sérieuses ou scientifiques ? Je vous pose cette question parce qu'en parallèle, l'avenir de la Station Spatiale Internationale que vous mentionnez il y a quelques instants semble compromis. Elle devrait être démantelée et détruite en 2025 et il n'y a rien prévu aujourd'hui pour la remplacer.
Officiellement, la NASA et les partenaires dont nous sommes partis en Europe soutiennent l'idée que l'idéal, ce serait qu'il y ait quelques missions commerciales, industrielles, privées, qui puissent finalement contribuer à son utilisation. Il va y avoir des missions touristiques, je l'ai mentionné tout à l'heure, ce qui fait qu'on peut considérer, en tout cas c'est le point de vue officiel, que ces missions commerciales, éventuellement touristiques, mais ce serait mieux si c'était aussi industriel,
pourrait éventuellement financer un remplacement.
Exactement.
Merci beaucoup.
C'est vraiment le discours officiel et quand on est astronome professionnel, on ne voit peut-être pas ça d'un très bon œil, mais ça va arriver. Il va y avoir de nombreuses missions dans les mois qui viennent.
Et on va les suivre attentivement. Merci beaucoup François Forget d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et spécialiste de l'exploration spatiale. Bonne journée et à bientôt.